Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
Alors, je sais que pour bien des gens, puis il faut quasiment que je m'inclue là-dedans, c'est un peu compliqué à saisir. Les crypto-monnaies, le plus connu étant le Bitcoin, il y en a maintenant quelques autres. Et bon, autant c'est vu pour plusieurs, investis pas là-dedans, c'est une affaire risquée. Juste vous dire que si vous aviez investi là-dedans, là, quelque part, l'hiver passé, ça se vendait, un Bitcoin coûtait 8 000 $, puis aujourd'hui, il en vaut 25 000, donc vous auriez triplé votre investissement.
Et même au début, la seule fois que j'ai voulu acheter des bitcoins, ils étaient à 200 $.
Mais ça vaudrait 25 000 aujourd'hui.
Je sais.
T'as pas acheté?
Ben non. Mais à mon compte, j'étais pas capable d'ouvrir un compte en ligne pour en acheter. Alors, c'est ça. Je vais devoir vivre avec ça.
Martin Lalonde est président et gestionnaire de portefeuille pour la firme de gestion Rivemont. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Est-ce que vous en avez acheté des bitcoins ou fait acheter à vos clients?
Oui, effectivement. C'est un peu le but quand on a lancé le fonds crypto en fin 2017. C'est pour permettre aux gens normaux ainsi que nos clients de pouvoir participer à ce qu'on pensait était pour être un bel essor, et c'est un peu ce qui se produit maintenant.
Donc, quelqu'un qui aurait investi, je sais pas moi, 1 000 $ dans votre fonds crypto en 2017, il y a combien aujourd'hui?
Ça dépend à quel moment en 2017. On a lancé notre fonds en 2017, donc fin 2017-2018, si on se rappelle, c'est la dernière fois que le Bitcoin a atteint 20 000 $. Donc, s'il a acheté au 1er janvier 2018, on est revenu au même point à peu près. Entre ces deux moments, ben, il a fait des beaux profits.
C'est ça, parce que là, ce qui s'est produit, il y a eu une première montée folle du Bitcoin et ça a retombé. Est-ce que cette fois-ci, est-ce que la nouvelle montée, parce que quand ça a retombé, ça avait retombé pas à peu près, là, ça avait redescendu très, très, très bas, ça a fait peur à tout le monde. Là, il y a une nouvelle montée. Est-ce que là, c'est une valeur plus sûre que la première fois, moins spéculative, ou c'est encore aussi une balloune?
Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que 2017, c'était pas la première fois. Quand vous parliez avec votre collègue, vous disiez que la première fois que vous avez vu le prix du Bitcoin, c'était autour de 200 $. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était 13 sous. Donc, effectivement, si j'avais investi à ce moment-là, peut-être qu'on se parlerait pas maintenant.
Oui, mais vous les auriez peut-être vendus à 15 $.
J'espère que non. Mais de toute façon, la même chose m'est arrivée. J'avais essayé rapidement, j'avais été incapable, et à ce moment-là, possiblement que les façons que j'aurais utilisées, peut-être que j'aurais perdu les bitcoins dans toutes ces années. Mais si on regarde au cours depuis sa création, dans le fond, depuis 10 ans, il y a eu plusieurs montées de 10 à 100 $, après de 100 à 1 000, après retour à 200, après remontée à 20 000, retour à 3 000, ce qui nous fait dire qu'effectivement, c'est un actif qui est intéressant à long terme, mais très, très volatile. Nous, on pense que ce genre de volatilité-là, ce rendement-là devrait continuer dans le futur. Mais effectivement, les investisseurs doivent être prêts à vivre des plus 1 000% et des moins 80%.
Ouais. Bon, on dit que c'est une valeur, parce qu'on entend toutes sortes, c'est très volatile. En même temps, certains voient ça comme une valeur refuge, comme l'or. Ils disent, si l'économie se met à aller mal, c'est bon d'avoir des bitcoins. On entend tout à propos de ça. Puis là, on voit arriver d'autres, parce que là, ce qui semble-t-il, ce qui est encore plus payant là, depuis quelques mois que le bitcoin, c'est l'Ethereum. Je le prononce-tu bien?
Ethereum, oui.
L'Ethereum. Parce qu'il y a d'autres bitcoins. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Est-ce qu'il y a de la place pour plusieurs? Est-ce qu'il y en a qui vont disparaître?
Ben, je pense que vous avez raison sur les deux points. Est-ce qu'il y en a de la place pour plusieurs? Possiblement que oui, pas beaucoup. L'Ethereum qui a une utilité différente que le bitcoin. Le bitcoin, pour nous, c'est effectivement, comme vous aviez dit, une valeur refuge. Donc, c'est une façon d'avoir de la valeur sur nous, dans notre téléphone, de façon digitale, partout dans le monde, en temps réel. Donc, à mon avis, le Bitcoin a tous les avantages de l'or et pas ses inconvénients. Ses inconvénients étant évidemment qu'on c'est dur de transporter de l'or et c'est aussi dur de diviser de l'or, ce qu'on peut faire facilement avec un Bitcoin. Donc, si on est dans un pays où la valeur de la monnaie pourrait être appelé à descendre dans le futur pour quelconque raison ou parce qu'un gouvernement pourrait avoir un contrôle sur le capital, ben le Bitcoin, dans ces moments-là, devient super intéressant. Et de plus, on l'a vu dans les derniers mois, notamment à cause de la pandémie, ben les imprimantes des grandes nations roulent à plein régime et il y a des gens qui commencent à se dire, ben est-ce que la valeur de mon dollar va être vraiment le même que dans 5 va être vraiment le même dans 5 ans ou dans 10 ans, et donc le Bitcoin devient intéressant aussi pour ça.
Mais ça, c'est fou, parce que pour une partie de la population moins au courant du Bitcoin, on a l'impression que c'est quelque chose de, c'est comme quelque chose qui est de l'air, là, qu'on touche à rien, qui n'existe pas. Alors que pour une autre partie de la population, on se dit, le gouvernement imprime de l'argent. Dans le fond, ils font des déficits tellement gros. C'est comme si les banques centrales impriment de l'argent. C'est notre argent qu'on n'est plus sûr de ce qu'il va valoir vraiment. Est-ce qu'il pourrait avoir de la grosse inflation parce qu'on a trop mis d'argent dans le système? Et donc, le Bitcoin devient une valeur plus sûre, refuge, là. C'est...
Absolument. Et on voit au cours des derniers mois, et c'est un peu ce qui a causé la hausse intéressante du Bitcoin, c'est qu'il y a un intérêt à la fois institutionnel et individuel sur le Bitcoin. On voit des compagnies aux États-Unis comme Robinhood, PayPal ou des choses comme ça qui permettent l'achat par des individus sur leur téléphone de Bitcoin. Et en même temps, il y a des grandes institutions, des grands gestionnaires de portefeuille qui décident de louer une partie de leur fonds. Dernièrement, Guggenheim, qui est un fonds de plusieurs milliards, qui a demandé à la SEC de pouvoir investir jusqu'à 10 % de son fonds dans le Bitcoin. Donc, c'est une combinaison de cette demande-là et d'une offre qui est plus ou moins élevée. Qui fait que la valeur du Bitcoin continue à augmenter comme on le voit sur les marchés.
Est-ce que, je suppose que ça doit dépendre encore là de la valeur du Bitcoin, mais on avait des mineurs là, de Bitcoin, des gens qui même chez la maison vont s'installer un paquet de cartes graphiques. Je l'ai vu parce que je suis un gamer, puis le prix des cartes graphiques a monté beaucoup à cause de ça. Donc des gens, parce qu'on peut s'en créer nous-mêmes à la maison des Bitcoins avec un calcul, mais qui devient, de ce que je peux comprendre, de plus en plus complexe. Est-ce que c'est encore quelque chose que les gens font ou c'est rendu trop coûteux avec l'équipement pour pouvoir, disons, avoir un profit?
C'est effectivement rendu trop coûteux pour la plupart de monsieur et madame tout le monde. Pour comprendre que la technologie derrière Bitcoin récompense la personne qui va réussir à résoudre. Et présentement, il y a des entrepôts complets d'ordinateurs qui sont totalement dédiés à miner des Bitcoins, comme on dit. Donc, être en compétition avec ces compagnies-là, c'est excessivement difficile, surtout qu'eux maximisent l'énergie, ils ont une technologie à la fine pointe de la technologie. Donc, présentement, je dirais que c'est des grands joueurs, notamment Bitfarms au Québec, qui est un des plus grands joueurs sur la planète, qui sont passablement en charge d'être les mineurs qui créent les nouveaux bitcoins présentement.
Mm-hmm. Vous avez dit tantôt, Ethereum joue un autre rôle. Donc, chacune des crypto-monnaies, donc Bitcoin, vous dites, c'est une façon de transporter de la valeur dans son cellulaire. Est-ce que vous me dites, parce que je voyais une liste aujourd'hui, il y a comme une dizaine de crypto-monnaies. Chacune a un rôle différent. Elle peut servir à différents types d'échanges?
Exactement. Et donc, je dirais que les deux majeurs que vous avez dit, Bitcoin et Ethereum, ça sert à mettre en place des contrats intelligents. Donc, utiliser la plateforme Ethereum pour mettre en place un algorithme qui gère de lui-même des contrats. Par exemple, si on aurait un contrat entre deux personnes, bien, on peut gérer l'ensemble du contrat et les paiements sur la chaîne de blocs. Peut-être pas le bon mot, la chaîne de blocs dans le cas d'Ethereum, mais en utilisant cette crypto-monnaie-là. Donc, Ethereum a une particularité. Bitcoin a une autre particularité. Il y a certains autres crypto-monnaies qui mettent l'emphase plus sur la sécurité ou l'anonymat, parce qu'on sait que le Bitcoin, toutes les transactions sont vérifiables et sur la chaîne de blocs. Donc, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont une autre utilité. Mais je dirais que présentement, même, il y a une troisième catégorie qu'on peut dire, c'est des crypto-monnaies qui agissent comme des actions. Donc, qui sont des parties d'une entreprise. Et si on continue, il y a d'autres crypto-monnaies qui mimiquent, par exemple, le rendement de l'or ou le rendement du dollar US. Donc, présentement, il y a un mouvement planétaire de digitalisation, si on peut dire, c'est un bon mot, de tous les actifs qui vont pouvoir se retrouver sur des crypto-monnaies. Mais si on ramène ça à sa plus simple expression, il y a présentement le Bitcoin qui est la crypto-monnaie forte. Il y a l'Ethereum qui est la deuxième plus grande
capitale. Non, mais l'Ethereum, mettons quelqu'un l'achetait au début de l'année, il était en bas de 200 $, puis il est rendu presque à 800.
Là. Oui, absolument. Donc, c'est une hausse. Une hausse intéressante, mais toutes ces autres crypto-monnaies-là, incluant l'Ethereum, ils ont moins bien performé quand même que le Bitcoin, qui a été le leader de cette...
Ah oui, encore plus.
Ce qui a lieu présentement. Oui, absolument.
Est-ce qu'il pourrait sortir une crypto-monnaie qui, là, au niveau de l'algorithme, est encore plus évolué, plus pertinent, plus intéressant, qui pourrait juste éliminer l'intérêt pour le Bitcoin? Est-ce que ça, vous voyez ça dans quelques années? Reste que c'est quand même un système là, qu'on achète?
Absolument. Donc, on achète l'algorithme Bitcoin, dans le fond, la création de Satoshi Nakamoto. C'est son génie, si on peut dire, et comme tout système ou comme toute valeur ou comme toute monnaie, ben c'est la confiance que les gens ont dans ce système-là qui fait en sorte qu'il peut continuer à prendre la valeur et à croître. Donc, est-ce possible que dans un avenir plus ou moins rapproché, ça soit plus le Bitcoin que ça soit une autre? On sait que dans la dernière année, Facebook a voulu lancer une crypto-monnaie, Libra. Le gouvernement chinois pense lancer sa crypto-monnaie. Donc, mon opinion à moi, c'est que le Bitcoin devrait continuer à être le leader pour encore un bon bout. Mais comme on connaît pas le futur et comme les grandes monnaies dans le monde, ça a été la livre anglaise, le dollar US, et possiblement que ça va se diriger vers l'Asie, ben peut-être la même chose va se présenter du côté digital. Là. Et ouais. Nous, notre fonds, dans le fond, notre but, ça va être de trouver le meilleur pour nos investisseurs.
Ça reste quelqu'un qui s'achète demain du Bitcoin, ça reste un investissement risqué, là.
Très risqué, très volatile, mais avec un potentiel de rendement qui, selon moi, est inégal dans le sens que si la tendance se maintient comme ça s'est passé dans les 10 dernières années pour le futur, ben c'est possiblement la classe d'actifs qui va donner le meilleur rendement. Très risqué, très volatile, comme tu l'as dit, mais avec des possibilités de rendement super intéressantes.
Martin Lalonde, merci beaucoup d'avoir été là.
Ben, ça me fait plaisir.
Au revoir. Président et gestionnaire de portefeuille chez Gestion Rivemont. On fait une pause. C'est Richard Martineau qui va être là dans un instant.